Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour tout le monde et bienvenue dans le réveil culturel. Le vendredi, c'est l'actualité de la bande dessinée, tout genre, tout style confondu. Et aujourd'hui, on va évoquer les souvenirs de jeunesse d'une ancienne gloire du football, racontée d'une manière fine et drôle en bande dessinée, par une jeune dessinatrice qui monte. Vikash, Dorasso et Emily Gleason sont mes invités aujourd'hui à l'occasion de la sortie en librairie de Je perds pas la boule, une bande dessinée éditée par Revival.
Le réveil culturel. Vendredi, bande dessinée.
Bonjour Emily Gleason, bonjour Vikash Dorasso.
Bonjour.
Vous racontez votre jeunesse à travers les traits d'Emily Gleason. Mais d'abord, puisque vous racontez à Emily Gleason votre jeunesse, vous saviez depuis le début qu'elle n'était pas du tout fan de football, Emily Gleason. C'est ça qui vous a plu ?
Peut-être. En tout cas, moi j'étais fan de sa première BD, puisque on l'a lu. Et puis après on s'est dit, tiens, ce serait peut-être elle qui pourrait dessiner ma vie.
Qu'est-ce qui vous a plu dans le trait d'Emily Gleason?
Les couleurs, le trait aussi allongé, un peu fou, et plein de choses aussi au même endroit. Et puis l'histoire aussi qu'elle raconte, qui est fabuleuse.
Ted, drôle de coco, vous parlez sans doute de cette première dessinée qui vous a fait connaître et qui vous a valu le prix de la révélation.
Qui a littéralement changé ma vie, pour le coup.
À Angoulême, parce que...
Qu'elle m'a rencontré derrière. Ça a changé ta vie.
Mais dans Ted, drôle de coco, vous parliez de votre frère, d'un sujet plutôt grave, puisque c'était autour du syndrome d'Asperger, et donc inspiré de l'histoire de votre frère. L'idée, c'est le fait que Emily Gleason peut parler de choses très graves d'une manière très fine, c'est-à-dire où l'humour est toujours là.
Oui, et puis déjà les couleurs qu'elle choisit sont, et puis le trait donne le ton. Voilà, on va s'amuser quand même, et puis on peut parler de choses très sérieuses. Alors ma vie n'est pas très sérieuse, pourtant, mais
c'est vrai que vous êtes un footballeur atypique à plus d'un titre. Mais quand vous racontez vos souvenirs de jeunesse dans ce quartier populaire du Havre, c'est une jeunesse populaire.
Ouais. Mais ce qui était aussi important, c'est que on fait ce travail à deux. Moi, je lui raconte des histoires. Après, on pourra peut-être en parler. Et puis après, elle a une liberté aussi dans ce qu'elle va dessiner pour reproduire mon histoire. Elle a eu la liberté de finir comme elle voulait, de faire la chute qu'elle voulait aussi. Donc ça, c'était important.
Alors, comment s'est faite cette bande dessinée ?
Comment ça a marché ?
Je perds pas la boule. Vous vous êtes rencontrés. Vikash Dorasso vous a raconté sa vie. Après, vous étiez libre de la réinterpréter, c'est ça ?
En
petite histoire d'ailleurs, c'est parce que la bande dessinée...
En petit strip, c'est très nouveau pour moi d'imaginer la BD comme ça, mais quand l'éditeur est venu à moi et m'a proposé le sujet, j'étais là, ah génial, je connais rien au foot, je vais pouvoir m'éclater et justement avoir des libertés sur un sujet dont je n'ai pas déjà été formatée dans un sens, donc je connaissais pas Vikash non plus, ce qui est assez rigolo, donc j'avais pas d'idée préconçue de toi, on va dire, et ce qui m'a permis d'avoir une liberté dans le personnage, parce qu'en plus tu m'as laissé être très libre dessus, et ça c'est vraiment, je t'en suis remerciante. Comment dire ?
Oh, c'est pas mal, ça.
Je l'ai en espagnol.
C'est pas mal, remerciante.
Mais je t'en suis remerciante, Vikash, parce que j'ai vraiment pu, en fait, m'éclater de bout en bout dans cette BD pour faire ce personnage que je me suis réapproprié à travers donc des anecdotes que tu m'avais écrites par PDF. On s'est vu plusieurs fois aussi pour en parler de vive voix, parce que Vikash a une oralité qui fait qu'il rend ses histoires très vivantes. Et avec une finalité où il fallait que c'était du strip, fallait que ce soit drôle. Donc là, on va dire que ma petite pointe d'humour était... de mise.
L'idée, c'était de faire ressentir donc la jeunesse de Vikash Dorasso dans son appartement, avec sa famille, avec ses camarades, dans son quartier du Havre. Et puis, comment rendre compte des odeurs et des sensations? Parce que, vous le dites dans votre bande dessinée Vikash Dorasso, chez nous, ça sentait le curry, ça dansait le Sega. Il y avait les prières
indiennes,
oui. Et on jouait au boka. Le boka, c'était un poker mauricien. On apprend plein de choses d'ailleurs sur la culture mauricienne.
Oui, et puis c'est réussi. Voilà, on sent les épices, on sent la couleur, on sent le. Je sais pas. Quand le tout début, je vois l'Inde et l'île Maurice mélangées qui se retrouvent dans la BD. Je vois ma mère en sari. Je vois mon père avec ses pantalons pas de dev des années 70. Voilà, je vois plein de choses qui ça me touche beaucoup. Ce qu'a fait Emily, parce que c'est pour moi c'est un vrai succès.
Et pourquoi raconter votre vie?
Alors. Parce que je sais que faire que ça, moi, je sais que me raconter, je le fais parce que je pense que ça peut avoir du sens pour les gens. Sinon, je le ferais pas, quoi. Me raconter juste pour vendre des BD ou des livres, ça n'a pas d'intérêt. Ma bio que j'avais écrite avant, je pense qu'elle avait du sens aussi. Et là, je pense que ça a du sens. Ne pas se prendre au sérieux, mais quand même raconter quelque chose avec un peu d'humour à la fin. Et puis, voilà, c'était aussi un rêve de faire une BD. J'étais fan de Riyad Satouf. Alors, ça fait un moment. Alors, ma bio, j'ai pensé à un moment la faire sous forme de BD comme Riyad Satouf.
Mais quand vous dites Riyad Satouf, c'est très intéressant. Vikash Dorasso, c'est le Riyad Satouf de l'Arabe du futur, de Pascal Brutal, lequel?
Plutôt l'Arabe du futur, voilà.
Ah, d'accord, raconter, se raconter.
Voilà, bon, lui, c'est historique, c'est aussi le voyage plus loin. Bon, voilà, je me suis retrouvé dans ce qu'il faisait, donc je suis assez fier. C'était une sorte de rêve aussi. Parfois, on a le droit de faire des choses juste pour se faire plaisir aussi, d'une certaine manière. Voilà, je suis content. Et je pense que les gens aussi vont...
Mais l'idée, c'était quoi? C'est de raconter cette histoire dans un quartier populaire quand on est d'origine mauricienne. C'est de raconter le football et surtout ce qui se passe dans le monde du foot.
C'est un peu chronologique. Hein, ça démarre petit dans mon quartier. Puis après, on voit bien que j'ai changé de club, j'ai changé de ville, j'ai changé de pays. J'ai croisé jusqu'à, quand je suis allé au Milan AC, Berlusconi, qui était le président de la République, enfin, le président du conseil là-bas. C'était mon président. Voilà, ça raconte toutes ces rencontres et aussi le fait d'être un homme de couleur d'origine indienne, mauricienne et qui se balade dans la rue et dans des villes différentes et à qui lui arrive plein d'histoires. Par exemple, juste mon prénom, on le transforme en permanence. On m'appelle parfois Vikash, mais pas toujours.
Ça veut dire quoi, Vikash?
Alors, ma mère m'a dit prospérité et progrès et j'ai envie de croire que c'est ça.
Non, mais je vous pose cette question parce que ce que vous racontez plutôt votre enfance, votre jeunesse et le foot, beaucoup le foot. Je vous pose cette question parce que tout le côté militant qui viendra après votre carrière sportive n'est pas dans cette bande dessinée « Je perds la boule ».
Il y a un petit peu, je pense.
Mais c'est pas tout à fait le Vikash Dorasso militant.
On faisait quelque chose à deux avec Émilie. Voilà, elle n'était pas... Il n'y avait pas que ça. Mais je crois que c'est sa liberté qui a donné un autre ton à la BD, je pense. Moi, si je me raconte tout seul, je vais raconter quelque chose de plus sérieux. C'était pas l'intérêt.
Alors, comment vous avez travaillé avec Vikash Dorasso et Émilie Gleason?
Bah, on était parti sur une idée de strip, donc je m'étais dit, tiens, c'est effectivement une part de récréation pour toi, et tu me racontes des anecdotes croustillantes sur quelque chose qu'on connaît finalement de loin, qui est le foot, qui est ta jeunesse, et surtout le fait donc d'être un homme indien, le premier indien en Coupe de France, quoi, en équipe de France. Donc j'ai quand même gardé cet esprit de militantisme par certains strips qui sont assez forts, quand tu te fais arrêter par la police, quand on te prend toujours, parce que c'est quand même, je dirais, la base de tout ce que t'as vécu, mais voilà, toujours avec cette couche de paillettes et de couleurs que j'aime tant et qui m'est si fidèle.
Et puis il y a aussi cette manière de voir qu'est-ce qu'on partage. La culture populaire que vous partagez à Vikash Dorasso, c'est quoi, Émilie Gleason?
Alors on en parlait peut-être, mais je suis une grande fan de Bollywood, c'est peut-être la culture qui nous rapproche le plus, ça se voit dans mon dessin d'une part, mais ça se voit dans ma vie aussi, où moi je marche à la Bollywood quand je suis dans la rue, quoi. J'ai besoin de danser et de chanter constamment.
रूप तेरा मस्ताना प्यार मेरा दीवाना रूप तेरा मस्ताना प्यार मेरा दीवाना भूल कोई हमसे ना हो जाए रूप तेरा मस्ताना.
Alors, on est bien d'accord, Vikash Dorasso, que dans votre famille, mis à part vos parents qui comprenaient un peu les films de Bollywood, tout le reste de la famille, comme moi, comme Émilie Gleason, c'était beaucoup plus les chansons, l'action qui nous attirait, qui faisait qu'on était scotché devant l'écran.
Oui, si on enlève les chansons, les bagarres, il reste beaucoup moins de films. Hein. Pourtant, ça dure 3 heures. Et c'est vrai que chez moi, mon père comprenait l'hindi et aussi le télégou, puisque nous on vient d'Andhra Pradesh, et il y a une belle scène, hein, c'est une des scènes que je préfère évidemment. Il y a ma famille au milieu et mon père ne traduisait pas grand chose, on attendait la traduction en permanence, donc faudra.
Mais jamais vos parents n'ont voulu vous apprendre leur langue maternelle?
Bah, c'est surtout que mon père et ma mère parlaient mauricien, puisque eux sont nés à Maurice. C'était leurs parents et leurs grands-parents qui leur parlaient indien, et donc ça a été décalé. Et nous, on se retrouvait à répondre en français à nos parents qui nous parlaient mauricien. Mais après, c'est vrai que c'était un mélange de cultures avec la culture indienne et mauricienne à la maison.
Émilie Gleason, on parle de double culture avec Vikash Dorasso, mais on peut aussi parler de double culture avec vous.
Oui, c'est vrai.
Vous êtes mexicaine et belge en même temps.
Exactement.
Expliquez-nous tout ça.
J'ai un nom irlandais, donc je suis assez perdue. On m'a pris pour mythomane toute ma vie, dès mes 3 ans en maternelle. La prof appelait mes parents. Votre fille dit n'importe quoi, elle est mexicaine, mais c'est pourtant le cas. J'y suis née.
Une blonde mexicaine, pourtant. C'est...
Blonde, yeux bleus, oui. Ouais,
avec des yeux bleus.
Le plus danois possible, et pourtant, je ne suis pas nordique du tout, mais je dois beaucoup à mes parents, parce que ça m'a vachement appris et grandi, fait grandir, je dirais. Waouh, de grandir dans une famille avec la culture mexicaine aussi présente chez moi, parce qu'on y allait tous les 3 ans, donc j'y ai vécu mes 2 premières années, je parlais pas français quand je suis arrivée ici. Et c'est un peu ma fierté, quoi, parce que je viens un peu de partout, mine de rien, donc j'ai voyagé avant l'heure.
Et est-ce que ça fait une affinité avec Vikash Dorasso, le fait d'avoir cette double culture?
Je pense que oui, très clairement. Même si la mienne est du coup peut-être moins visible dans un sens où j'ai pas vécu ce que tu as pu vivre toi avec la couleur de ta peau, et donc c'est je dirais que là-dessus je suis un peu une fraude. Non, je sais pas comment le dire autrement, mais que c'est plus dans une question de cœur.
Bon, le football est très présent dans Je perds pas la boule, dans cette bande dessinée qui raconte donc la jeunesse et même l'enfance de Vikash Dorasso. Et ce qui est très drôle et très réussi dans cette bande dessinée, c'est que du début jusqu'à la fin, vous représentez les footballeurs comme des gamins. Non, mais je sais pas comment Vikash Dorasso a pris ça. Est-ce que c'est une forme d'hommage? Il y a toujours un côté enfant chez un footballeur? Ou est-ce que c'est aussi une manière d'Emily Gleason de dire que pour elle, c'est vraiment un jeu de gamin que de courir derrière un ballon?
Ah bah alors pas du tout, je le voyais pas comme ça. Maintenant que tu le dis, c'est peut-être évident sur certaines images, mais j'ai un style enfantin d'une part, et comme disait Vikash, j'adore distordre les corps, et donc voilà, je sais que on parlait de la taille de Vikash qui a des fois son importance dans les histoires, donc je suis partie là-dessus. Je me suis dit autant faire une caricature pure de lui. Il l'a accepté, et c'est cool parce que j'adore ce petit personnage qu'est Vikash dans la BD. Et par la suite, effectivement, pour pas que ce soit trop redondant dans les histoires de foot, je me suis dit, moi le foot je l'ai connu dans la cour de récré, on me laissait pas jouer, j'étais une fille, etc. C'est un peu l'unique souvenir que j'en avais, donc c'est peut-être répertorié à...
Vous direz la même chose, Vikash Dorasso, jouer au football, c'est continuer à être gamin?
Oui, alors évidemment, il faut. C'était ma passion. Après, c'est devenu un réel métier. Hein. Je veux dire, moi, j'ai travaillé, je gagnais ma vie là, avec ce métier. Il y avait beaucoup de pression, beaucoup de stress, des blessures, des mises à l'écart, plein de choses comme ça. Et puis aussi, à la fin, je me suis fait licencier. Donc c'est pas anodin, quoi. Et puis,
comme un gamin indiscipliné.
Non, mais je veux dire. Le foot m'a offert tellement de choses que j'ai tout intérêt à continuer à croire que c'était juste extraordinaire, magnifique, et c'était un rêve de gamin que j'avais réalisé d'une certaine manière. Voilà, donc moi je suis un peu chanceux, j'ai rêvé de jouer une finale de Coupe du Monde, je l'ai fait, j'ai rêvé de jouer au Milan AC, je l'ai fait, et en même temps c'était vraiment mon métier aussi.
Alors parmi les mélanges. Il y a donc plein de strips, plein de petites histoires dont Je perds pas la boule, et il y a une histoire que j'ai trouvé complètement incroyable, c'est-à-dire est-ce que c'est vrai que il est interdit de jouer au foot quand on a une bague?
Alors ça c'est une belle histoire, parce qu'en plus moi je travaillais à l'équipe et je croisais régulièrement Raymond Domenech, ouais, qui était le sélectionneur à l'époque. Et puis pendant la Coupe du Monde, en fait, on n'a pas le droit d'avoir de bague, mais par exemple, l'alliance, j'étais marié à l'époque, l'alliance, on peut la cacher sous un strap, mais pas en Coupe du Monde. En Coupe du Monde, il faut enlever toutes les bagues. C'est pour ça que parfois, certains, même en été, jouent avec des gants. Et moi, je voulais pas du tout enlever ma bague, quoi. J'avais jamais enlevé de ma vie. Je l'avais cachée, et au moment de rentrer, j'ai caché ma main, l'arbitre l'a vu, donc il m'a dit d'enlever cette bague. Et là, il faisait quand même 40 degrés, il était 6 heures de l'après-midi en Allemagne. Et je vois Domenech qui me fusille du regard. Et je me dis, mais là, c'est foutu, elle va jamais sortir cette bague. Et en fait, j'ai craché dessus, elle est sortie. Et je l'ai regardé, il m'a regardé, je me suis dit, je t'ai bien eu, mec. Et j'ai joué. Parce que je pense que si j'avais pas pu enlever la bague, il faisait pas le changement. Et je pense qu'on me renvoyait en France.
Bon.
Ouais, tout se joue à une bague. C'est bon, rigolo.
Et ça a été très agréable de dessiner ce.
Ah bah, il y a plein de gestuels.
Il y a gestuels. Et puis, même un côté dramatique, c'est très comique. Mais il y a un côté dramatique. Est-ce qu'il va passer à côté d'un match aussi important à cause de ça? À
oui,
cause d'une bague?
C'est la question qu'on se pose, ouais, clairement.
France Culture, Le Réveil Culturel, Tupi Kakem.
Vikash Dorasso, il y a aussi une prise de conscience politique. Mais ce qui est bien, en tout cas dans cette bande dessinée, dessinée avec Emily Gleason, ça ne s'accompagne pas de discours sentencieux ni de morale. Ça se joue un peu à l'instinct, par exemple. Quand Nicolas Sarkozy est ministre de l'Intérieur et qu'il n'a qu'une seule envie, c'est de serrer la main au footballeur, vous, par instinct, vous faites tout pour ne pas le rencontrer. Mais c'est même pas expliqué comme si c'était un geste politique.
Bah, c'est un geste politique, hein, mais c'était... J'étais piégé parce que, comment dire, je suis quelqu'un de poli, donc je savais que si je le croisais, j'allais lui serrer la main. Donc, alors j'essayais d'éviter, il était quand même régulièrement dans le vestiaire. Mais ça ressemble un peu aussi à être allé jouer au Milan AC. Je veux dire, moi je joue au football, je fais pas de politique à ce moment-là. Et je vais jouer dans le club de la droite dure italienne avec Berlusconi. Et pourtant j'y vais.
Et pourtant il vous a bien.
Ouais, et puis ce sont les contradictions de la vie. Donc à un moment, bah, Nicolas Sarkozy, je l'ai croisé.
Cet a priori que vous aviez contre Nicolas Sarkozy, il faut le rappeler, en tant que ministre de l'Intérieur à l'époque, ça venait d'où ?
Ah, parce que je suis de gauche et il est de droite, et puis c'est... Voilà, c'est...
Vous avez toujours été de gauche ?
Toujours, ouais, bien sûr. C'est une construction aussi, hein, parce qu'évidemment, chez moi, on est tous de gauche. Et puis après, le quartier d'où je viens, les combats, le racisme qu'on a subi, que j'ai subi, les discriminations, les inégalités, tout ça ont fait que j'étais un homme de gauche et je l'ai continué à l'être. Ce qui est très important dans ma construction, dans mon parcours, c'est que j'ai jamais oublié voilà, du milieu social d'où je viens, c'est juste ça.
Vous vous êtes présenté aux dernières élections municipales,
oui,
dans le 18e arrondissement. Vous habitez aujourd'hui à Paris, donc, et vous avez terminé en quatrième position avec près de 10% des voix. C'était une manière d'annoncer que vous alliez vous impliquer encore plus en politique et avec le parti de Jean-Luc Mélenchon, la France Insoumise.
Moi, je suis pas de la France Insoumise. J'ai été soutenu pendant cette élection par la France Insoumise. J'ai des valeurs qui sont assez proches. Je ne sais pas ce qui va se passer. En tout cas, c'était pas un coup de tête, hein, mais c'était comme ça. Ça s'est présenté parce que on s'était battu pour défendre un petit terrain de sport pour des gamins qui étaient discriminés. Et il se trouve que ça m'a donné envie d'aller plus loin et de m'engager politiquement, et notamment dans le 18e arrondissement. J'ai perdu. J'étais pas au deuxième tour. Je ne suis pas élu. On verra la suite.
Vous êtes aussi engagé contre l'homophobie dans le milieu sportif et plus particulièrement footballistique.
En fait, mes engagements se rejoignent. Hein. C'est souvent, ma candidature dans le 18e arrondissement était un acte antiraciste. Je suis un homme de couleur et je me présente à une élection, ce qui arrive très rarement et ce qui arrive pas du tout à Paris. Donc c'était hyper important. Donc quand j'ai soutenu le Paris Foot Gay, donc il y a quelques années, j'étais encore footballeur à l'époque, et c'était une façon de lutter contre toutes les discriminations, contre l'homophobie, contre le racisme, contre le sexisme, la misogynie, etc. Voilà, toutes les luttes se rejoignent et c'est toujours une lutte contre le capitalisme et contre le patriarcat d'une certaine manière.
Quelles sont les lectures qui ont été très importantes pour vous ? Je vous dis ça parce que vous avez quand même sorti cette année un petit fascicule « Comment raconter à sa fille l'engagement politique ». C'était aux éditions Le Seuil. « L'engagement expliqué à ma fille et à ses potes du quartier ».
Voilà. Ouais. C'était un livre d'entretien, une sorte d'entretien fictif avec des enfants parce que c'est à eux qu'il faut parler, quoi. C'est parce qu'on s'intéresse aux jeunes qu'on reste jeunes d'ailleurs. Et c'est, moi j'ai des enfants, donc c'est eux qui vont grandir dans ce monde, voilà, qui me semble parfois un peu hostile.
Mais est-ce qu'il y a un homme politique, un auteur, un philosophe, un mouvement qui a été très important pour vous, pour vous lancer vous-même dans la politique et dans l'engagement?
Oui, moi je pense que c'est vraiment le combat antiraciste, voilà, moi je pense que c'est central. Moi il y a un livre que je viens de lire récemment qui est de Françoise Vergès sur le féminisme décolonial. Voilà, c'est quelque chose qui est central et la convergence des luttes, elle peut se jouer là. Voilà,
les discriminations. Qui vous l'a conseillé ce livre ?
Bah c'est elle.
Vous l'avez rencontré ?
Bah ouais, bah c'est une personne que je connais très bien et qui est fabuleuse.
On vous voit aussi très souvent avec Virginie Despentes.
Ouais, c'est une pote, ouais, bien sûr. King Kong Theory, j'ai relu Vernon Subutex pendant les vacances, juste pour me faire plaisir, et on se parle souvent, et je la trouve fabuleuse. Elle, Rokhaya Diallo, c'est des gens. Là, récemment, Alice Coffin, qui s'est battue à la mairie de Paris, et son combat est encore à mener. J'espère qu'elle va le gagner face à Christophe Girard, qui était un élu qui a démissionné. Voilà, c'est des luttes qui sont importantes et ça tout se rejoint toujours vers le capitalisme, voilà, et vers la lutte des classes, plein de choses comme ça.
Autant d'idées politiques que vous partagez, Mille Glisson.
Oui, complètement. Alors tout ce que dit Vika, je le conçois, mais oui. Alors, moi, je suis vraiment.
Vas-y, Tu peux ne pas être d'accord.
Non, je suis complètement d'accord avec tout ce que Vikash dit. J'ai juste grandi dans une famille très apolitique et donc c'est compliqué pour moi, peut-être, d'affirmer mes positions. Mais je. Non, évidemment, je me bats, moi, à travers mon boulot aussi et je vois que le livre, et comme tu dis, les enfants sont les gens qu'il faut éduquer. Ça sert à rien de parler aux vieux, ils ont déjà leurs idées préconçues. Et donc, ce que je veux, moi, dans mon travail, c'est vraiment pouvoir influencer de bonne manière.
Oh, bah, merci pour les vieux. De bon matin. Je perds pas la boule. C'est édité chez Revival. Merci beaucoup, Vikash Dorasso et Émilie Glisson d'être passés ce matin. Merci.
Le réveil culturel. Tous les matins de la semaine, tôt à la radio ou quand on veut sur franceculture.fr.
On se retrouve lundi pour un nouveau réveil culturel. D'ici là, merci d'être avec les petits matins de France Culture.